Deuxième question qui nous est posée par Pascal W. La question est, ne pas avoir pratiqué les différents protocoles. Je suppose que la personne fait référence au protocole donné par Autre Dimension. Si découverte de ceci il y a peu de temps, gêne-t-il en quelque soit le cheminement vers la vérité, vers la libération finale? Alors, on pouvait avoir l'impression effectivement que tous les protocoles qui ont été communiqués dans le yoga de l'unité, le yoga de la vérité, pour ne prendre que quelques exemples, ont été en quelque sorte des raccourcis. Aujourd'hui, les raccourcis sur le chemin n'ont même plus lieu d'être. Je vous renvoie à la première question, c'est-à-dire que si vous êtes capable, dans le moment où ces vibrations vous saisissent, vous prennent, vous emportent, de faire le silence, je vous dirais qu'il n'y a pas de meilleur protocole, il n'y a pas de meilleure attitude à avoir. Bien évidemment, tout dépend d'où vous partez. Quelle est la distance qui peut exister entre là où vous vous situez et cette libération? Et cette distance, elle est fonction uniquement des identifications, des croyances, des blessures, bien sûr, de tout ce qui vous a identifié à votre propre histoire, à votre propre cheminement, à vos propres conceptions d'un cheminement, d'une évolution, d'une montée vibratoire. Aujourd'hui, comme on nous le dit et comme cela me semble et pour beaucoup de plus en plus évident, il faut aller vers de plus en plus de simplicité, de plus en plus d'évidence. Si vous êtes capable de vous abandonner, si vous êtes capable de laisser filer, laisser passer en quelque sorte la notion des émotions, la notion du mental, la notion de la compréhension, vous n'avez rien à faire. Si pour vous, il vous semble utile d'adopter certains protocoles qui vont vous aider à effectuer, à réaliser une montée vibratoire, que ce soit avec des cristaux, avec la respiration, bien sûr, faites-le. Mais il n'y a que vous, individuellement, personnellement, qui pouvez juger en quelque sorte de ce qui vous est le plus adéquat. Mais j'ai encore envie de renforcer cette notion de simplicité. Plus vous vous oubliez vous-même, plus vous rentrez dans, en quelque sorte, cette notion de laisser-faire, d'observateur et de disparition d'observateur, plus cela vous semblera évident. Vous avez des témoignages innombrables de gens, de personnes qui ont assisté à des satsangs, que ce soit avec Muji, que ce soit avec Papaji qui est mort, que ce soit avec Ganjaji. Je ne vais pas citer tous les noms, il y en a énormément parmi les conférenciers, par exemple, ceux qui font des satsangs dans le néo-advaita, par exemple, qui a été initialisé par Papaji. Vous avez des gens qui basculent, qui font ce switch de conscience en l'espace de 2 minutes. Simplement en étant présent, simplement en étant dans le silence, en étant présent à soi-même, présent à ce qui est dit, présent au silence et à la présence de l'autre. Vous avez des témoignages aujourd'hui, par exemple, beaucoup plus intéressants que les entretiens de Nisadagartha de son vivant, qui font état de ce feu qui est présent, qui se déploie dès l'instant où vous acceptez en quelque sorte de laisser œuvrer. Il faut bien comprendre que la libération ne sera jamais, jamais une œuvre de l'ego, parce que la libération a toujours été là. Dit autrement, vous ne pouvez pas sortir de la prison en étudiant la prison. Vous ne savez pas ce qu'il y a en dehors de la prison. La seule façon de connaître et d'être cela, c'est bien évidemment de sortir la prison. Sortir de la prison, c'est accepter, non pas de chercher un moyen de sortie, c'est se poser la question de la réalité de la prison. Parce qu'en réalité, quand vous êtes sur l'autre rive, quel qu'ait été votre chemin, il y a des gens qui sont en cheminement depuis 20 ans et qui, au bout de 20 ans, s'aperçoivent que ce chemin est une illusion. Mais tant qu'on n'est pas allé sur l'autre rive, bien sûr, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le vivre. Donc déjà, il faut là aussi changer de point de vue, d'emplacement de la conscience, non pas en disant je veux sortir de la prison, parce que ça serait une erreur. Dire je veux sortir de la prison, c'est nier la vie. Je ne parle pas uniquement de la vie sur ce monde, dans ce corps, dans ce complexe inférieur, mais de la vie tout court. Or, la prison est une illusion de la vie. Donc, il est nécessaire, quelque part, de voir ce qui, pour vous, est le plus fluide, le plus évident. Si, par exemple, au moment où survienne quelque chose qui fait irruption dans votre complexe inférieur, corps, mental, ego, personnalité, laissez-le œuvrer. De toute façon, il y a un dicton qui ne ment pas, on reconnaît l'arbre à ses fruits, c'est-à-dire qu'après ces processus de vibration, si vous avez laissé œuvrer, si vous n'avez pas cultivé la peur, si vous n'avez pas donné d'attention aux besoins d'explication, alors à ce moment-là, vous constaterez très rapidement les fruits. Le premier de ces fruits, bien sûr, qui est plus ou moins stable selon l'intensité de votre abandon, je dirais, c'est la paix, la joie, qui ne dépend d'aucun sujet ni objet, et un état de linéarité de la conscience qui n'est plus soumis de moins en moins, de moins en moins soumis, je dirais, à cette notion de questionnement, de cheminement, d'évolution et même de vibration. Le silence, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Encore une fois, comme je l'ai dit dans les derniers 700, que ce silence ne consiste pas à rester à une chaise, sur une chaise sans rien faire en attendant que ça vienne, mais à bien mener sa vie telle que la vie nous la propose et laisser faire la lumière afin de devenir cette lumière que nous sommes. La libération n'est pas la conséquence de la sortie de la prison, puisque la prison n'existe pas. C'est un changement de point de vue, mais pas un point de vue mental, un point de vue d'emplacement de la conscience jusqu'à son basculement final, qui, je vous le rappelle, est à conscience, c'est-à-dire perte d'identification, perte de repère, vécue dans la pleine acceptation et qui vous fait découvrir la vérité, non pas la vérité personnelle, mais la vérité du Brahman, du Parabrahman, du Paratman, quels que soient les noms que vous lui donnez, vous appelez ça cela, ça, amour, absolu, ultime, ce ne sont que des qualificatifs de quelque chose qui est au-delà de tout état et qui se vit, sur lesquels, dès qu'on met des mots, effectivement, on sort de la vérité, parce que le mot ne peut jamais être vrai. Il est tributaire des circonstances de notre éducation, tributaire des circonstances de notre culture, de notre passé. Le mot, les mots ne seront jamais la vérité. Par contre, le vécu, lui, est véritable. Et ce vécu véritable traduit et se traduit par des fruits. Et les fruits les plus importants, c'est cette paix, c'est cette tranquillité, cette béatitude, ce silence, c'est-à-dire tout ce qui vient nous mettre dans cet état d'adéquation, de coïncidence, où il n'y a plus de question. C'est la grâce. Et bien évidemment, dans cet état de grâce, comme cela a été dit et répété par de très nombreux auteurs, il y a deux lois dans l'univers, action-réaction, celle que nous connaissons tous, celle de la prison, qui a ses propres lois, son propre karma, généré, je vous le rappelle, par les archontes et non pas par la source, et les lois de la grâce, la loi de la grâce qui est amour, c'est-à-dire notre nature essentielle qui a toujours été là, qui a attendu simplement qu'on le voit. C'est un peu comme si vous c'est l'allégorie de la caverne de Platon sur laquelle vous ne devez pas revenir, mais toute proportion gardée, c'est le même exemple. Je suis à l'ombre d'un arbre, je suis à l'ombre, de l'arbre, et l'arbre est dans mon dos, c'est comme si j'appréciais l'ombre sans savoir qu'il y avait un arbre. Il suffit de se retourner pour voir l'arbre. C'est la même chose pour la libération. Ce n'est pas quelque chose qui est demain, ce n'est pas quelque chose qui dépend d'un karma à épurer, ce n'est pas quelque chose qui dépend d'un chemin à parcourir. Ça a toujours été là. Et la meilleure façon de l'exprimer, c'est ce fameux changement de regard, ce fameux changement de point de vue qui nous fait passer de la distance à la coïncidence puis à l'identification de ce qui a toujours été là. Alors bien sûr, tant qu'on est dans l'ego, tant qu'on se croit en cheminement spirituel, cela nous apparaît comme impossible, cela nous apparaît comme totalement illusoire, comme totalement à côté de la plaque. Si vous voulez, c'est vraiment lié à une culture. Nous sommes tous, qu'on le veuille ou pas, encore soumis au niveau de notre complexe inférieur, corps, mental, jeu, personnalité, émotion, à ce qui a été appelé, je crois, le système de mental du contrôle humain, ces chapes de plomb qui nous enserrent et nous enferment, auxquelles nous sommes reliés par les lignes de prédation qui sont en cours de dissolution, qui ont été dissolues pour certains êtres déjà depuis un an, mais qui se relâchent de plus en plus. Donc il y a non pas une chance à saisir durant cette période particulière, mais plutôt un effort dans le non-effort, c'est-à-dire accepter la possibilité que nous ne sommes rien, mais absolument rien de ce que nous croyons, non pas pour nier, mais bien plutôt dans l'esprit de réfuter et non de renier cet éphémère. Parce que cet éphémère est aussi inscrit quelque part dans cette éternité. Donc les protocoles, ça dépend de vous, ça dépend de votre besoin inscrit au sein du complexe inférieur de réaliser des exercices. Alors bien sûr, il n'est pas question de nier l'utilité jusqu'à un certain point du yoga, de l'éveil de la kundalini, de la descente de l'esprit saint, de l'éveil des couronnes radiantes, de l'activation de l'onde de vie. Mais, comme le disait Nisargadatta de son vivant à quelqu'un qui venait le voir et qui lui parlait déjà à cette époque, dans les années 70-80, d'être en contact avec Maharshi, et Nisargadatta de lui dire « mais laissez tomber tout ça, allez au-delà ». Ça ne veut pas dire que que cette rencontre multidimensionnelle elle-même est une illusion, mais c'est un outil. Ne voyez pas ça comme une finalité. La finalité, c'est pas d'avoir Marie dans le canal marial ou dans le cœur, ce n'est pas d'entendre Marie ou de canaliser Marie. La finalité, c'est de retrouver ce que l'on est. Et ces éléments vibratoires, que ce soit par le canal marial, par ces présences multidimensionnelles, ne sont qu'un outil qui nous permet de nous rapprocher en quelque sorte de ce déclic, tant que l'on est inscrit au sein du complexe éphémère. Mais dès que vous basculez, bien sûr, là, il n'y a plus aucune raison de penser ou d'imaginer avoir un chemin, avoir un karma à épurer, avoir une progression spirituelle à mener, puisque tout a toujours été là. Mais bien sûr, pour l'ego, ça demeurera toujours un leurre, toujours une illusion et toujours quelque chose de très frustrant. Dans certains textes de Sankara, qui est, je vous le rappelle, la personne qui a au 8e siècle pas fondé, mais mis en ordre quelque part tout ce qui est en rapport avec la non-dualité, il faut bien comprendre que tout cela, pour celui qui ne le vit pas, risque de le faire rentrer en réaction. Et d'abord nous-mêmes, c'est-à-dire que quand on n'est pas absolu, quand on est surtout dans un cheminement spirituel qui a duré longtemps, et plus on avance en âge, plus on croit que cela est illusoire, plus il y a des résistances. Donc la meilleure façon, c'est de ne pas lutter contre les résistances, puisque je vous rappelle, et c'est une loi générale qu'on retrouve aussi bien dans le syndrome général d'adaptation qu'au sein de la personnalité, tout ce à quoi vous allez vous opposer va se renforcer. Donc il ne faut pas s'opposer. Dès l'instant où vous vous opposez à l'absolu, vous condamnez vous-même à rester dans l'action-réaction. Or, vous ne pouvez pas être dans l'action-réaction et être dans l'action de grâce. Il vous faut faire un choix, et ce choix n'est pas mental, et c'est un choix de conscience elle-même, et qui ne dépend d'aucun yoga, d'aucune technique, d'aucun éveil de la kundalini, d'aucune vibration. Et c'est ce qui se passe quand vous êtes dans le silence. C'est ce qui se passe, même quand la vibration arrive et vous prend la nuit, d'être en quelque sorte dans cet état de béatitude, de paix ou de sérénité, en tout cas dans ce silence, parce que le silence est la véritable guérison. Le silence est transformant. Il suffit de voir, comme je le disais, le nombre de personnes qui aujourd'hui se libèrent sans rien connaître de la spiritualité, sans rien connaître même du fonctionnement de l'ego dans le complexe inférieur, simplement en se mettant en résonance, en sympathie avec un être qui est capable, en quelque sorte, de témoigner. L'absolu n'est pas un enseignement. L'absolu est difficilement mis en mots. On ne peut qu'en être un témoignage vivant. Alors parfois, cela peut se faire par l'art, cela peut se faire par des témoignages écrits, mais encore une fois, ce n'est pas ce qui est écrit, ce n'est pas ce qui est montré, par exemple, dans une peinture. Ça se passe à un niveau infraconscient et non pas inconscient, qui va venir switcher, qui va venir vous faire basculer sans que vous y mettiez votre volonté, votre personnalité. Voilà ce que je pouvais répondre pour cette question 2. Donc faites ce que vous voulez, ce que vous sentez bon pour vous, mais quoi que vous fassiez ou ne fassiez pas, viendra un instant, un moment où tout cela va disparaître. Et c'est ce moment-là qui est repérable entre tous parce qu'il confère des fruits qui sont l'ordre de la paix, de l'équanimité, de vivre ce que la vie nous propose même dans ses aspects illusoires. Mais à ce moment-là, on n'est plus un acteur, on n'est même plus un observateur. On regarde cela se dérouler d'un autre point de vue. Ce n'est pas non plus être déraciné ou déancré, c'est simplement ne plus être soumis à la loi d'action-réaction, ne plus être soumis à, au karma, mais simplement ne plus laisser l'ego être sur le devant de la scène, mais être vraiment dans la grâce. Et la grâce, ce n'est pas un concept intellectuel, c'est quelque chose qui se vit réellement, concrètement, chaque minute, dès l'instant où on a fait ce retournement. Comme disait Krishnamurti, c'est ce moment où on est allé de l'autre côté, sur l'autre rive, et où on a pris conscience. Attention à ne pas s'arrêter pendant la traversée, si tant est que l'on puisse parler de traversée, parce qu'il y a de nombreuses séductions lors de la traversée. Je vous renvoie pour cela à l'expérience maintenant commune et connue de ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente, Near Death Experience, où on passe justement ces différentes étapes, où on a tendance à vouloir s'arrêter à la rencontre avec les membres de la famille, à la rencontre avec des êtres dits de lumière. Mais ceux qui vont plus loin sont ceux justement qui ne s'arrêtent pas à cette séduction et qui vont aller directement dans cette lumière, pas pour s'arrêter dans la lumière, c'est-à-dire le corps d'être-té, mais traverser la lumière pour aller à ce qui est au-delà de la source, c'est-à-dire le parabrahman, et devenir soi-même le parabrahman, l'absolu, ça, ce silence, prendre ce qui n'est jamais parti, c'est-à-dire prendre conscience que nous sommes amour, que nous sommes lumière, que nous sommes éternité, et qu'il n'y a rien à faire pour amplifier quelque chose ou faire apparaître quelque chose qui a toujours été là. Voilà ce que je peux vous dire.